Voilà, eh bien je vous remercie d'être venu pour cette première rencontre sur l'étude de ce prophète Jonas. Et c'est un prophète que je lis depuis tout petit et voilà, que j'étudie régulièrement. Et je vais vous lire un petit peu mes réflexions ce soir et demain matin et après-midi. Voilà, le titre peut déjà nous orienter vers ce que nous allons voir. Jonas, le prophète contestataire. Déjà, on peut se dire, mais comment tu contestes, toi, envers Dieu? Oui, je conteste. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc, le livre de Jonas est celui qui est le plus connu des 12 petits prophètes de la partie prophétique des livres de l'Ancien Testament. Il est le plus connu, oui, effectivement, parce que l'histoire du poisson, nous en reparlerons demain matin, donne un attrait vraiment tout particulier à ce livre. Le livre de Jonas a l'avantage d'être bref, d'être rédigé dans un style ramassé, pétillant de vie. C'est le but de l'auteur, de nous raconter une histoire plus que de parler de prophétie. La lecture de ce livre va donc être palpitante dans le sens que nous allons, par le fait que le narrateur l'a mis en place, être curieux au fur et à mesure que les choses vont arriver. Donc nous essaierons de comprendre les raisons qui font que le prophète est si contestataire et tirer des leçons et des exhortations pour nous, parce que je crois que vous allez voir, il y en a pas mal dans ce livre de Jonas, des exhortations tout azimuts. Mais la particularité du livre de Jonas, en dehors de l'épisode du poisson, par rapport aux autres livres prophétiques, c'est qu'il n'y a pas une abondance de prophéties. Mais l'auteur nous racontera cette histoire qui n'est pas banale. La seule prophétie qui nous est donnée, elle est au chapitre 3, et elle nous dit ceci, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Alors, pour j'ouvre et je ferme la parenthèse très vite, les images et les dessins que vous allez voir sont des dessins que j'ai faits lorsque j'avais 9 ou 10 ans. À l'époque, je lisais Jonas et j'ai fait un montage audiovisuel sur des diapositives à l'époque. Voilà, donc vous serez peut-être un peu surpris de certains dessins, mais bon, c'est les dessins d'un enfant de 10 ans, quoi. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Voilà la seule prophétie dans le livre de Jonas. Il n'y a pas autre chose. Donc nous y reviendrons. Son nom signifie colombe, ou celui de son père Amittai signifie littéralement colombe de la vérité. C'est-à-dire Jonas, fils d'Amittai, colombe de la vérité. La colombe symbolise bien sûr la paix et le pardon. Et voilà que les Ninivites vont comprendre, peuple vers lequel Jonas est appelé à prêcher, qu'il est capital pour eux de faire la paix avec son Dieu. Jonas est de Gath Hépher, et vous voyez dans où ça se trouve à peu près, en Galilée. Il appartenait au royaume donc du nord, de la tribu dite de Zabulon. C'est un prophète qui a déjà eu dans son ministère de quoi faire. Par exemple, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 14 et au verset 23, je lis simplement quelques versets. « La 15e année d'Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur, Jonas, le prophète, fils d'Amittai de Gath Hépher. » Donc, c'est un prophète qui est à l'œuvre dans le territoire de Juda. Rien ne nous est dit dans le livre sur l'auteur, bien que Jonas ait dû être bien sûr la source première des informations contenues dans le récit, il n'en est pas forcément l'auteur. Sans doute l'histoire s'est-elle rapidement répandue en Israël et que peut-être certains ont rapporté et écrit cette histoire. Mais il n'est pas dit que ce soit lui qui l'ait fait. Et l'auteur, je l'ai déjà un petit peu montré ou dit, va nous donner un cadre certes historique et non prophétique, mais il va prendre le soin d'ordonner le récit de façon assez particulière. Nous découvrons, et nous allons le voir, à chaque chapitre, une structure littéraire. Ce qui signifie qu'il y a bien une idée derrière l'auteur. Cette structure littéraire s'appelle un chiasme, comme on dirait chez nous, de quais à quel bestia. Hein ? Eh bien, un chiasme, c'est une manière de faire apparaître une idée centrale à l'auteur en l'encadrant de vérités synonymiques. Si je veux vous dire, pour moi, pointer votre attention sur la barre rouge, sur l'écran, je vais mettre deux barres jaunes. Et au fur et à mesure que je vais mettre des barres, je vais, tel un entonnoir, focaliser votre attention sur le point central. C'est cela, un chiasme. Donc il y a en fait des idées qui se recoupent, mais il y en a une au centre qui est unique. Et l'auteur va focaliser notre attention là-dessus. C'est pourquoi dans le chapitre 1 que nous allons lire, eh bien, nous lisons et nous voyons, et je vous mets volontairement la structure pour que vous puissiez la repérer tout en lisant le texte. Nous lisons Jonas, chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire un naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous, qui nous attire ce malheur ? Quelles sont tes affaires ? D'où viens-tu ? Quel est ton pays ? De quel peuple es-tu ? » Il leur répondit « Je suis hébreu. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur. Et ils lui dirent « Mais pourquoi tu fais cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait dit. Alors ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Alors il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. » Et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Ne nous charge pas du sang innocent. Toi seul, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Nous voyons comment le texte se structure avec la lecture que j'ai faite. Cette mer qui est déchaînée, puis qui est apaisée, l'invocation des marins, puis invocation des marins, mais pas dans la même source, l'effort des marins, l'effort, le dialogue qui se fait entre les deux, et avec le centre, Jonas qui dort. Voilà, c'est vraiment le centre de ce chapitre, Jonas qui dort. D'où le titre de notre première rencontre, le sommeil du juste, entre guillemets, bien évidemment. Les premiers versets donnent le ton et on est surpris, peut-être même choqué, je l'ai déjà un petit peu sous-entendu, comment un prophète peut-il refuser un ordre de mission, un ordre de la part de Dieu ? Va à Ninive. Ninive qui se trouve en territoire assyrien. On est actuellement dans quasiment l'Iran, ou en tout cas l'Irak, mais plutôt du côté de l'Iran, parce que l'Irak est un petit peu plus près. Oh, c'est même l'Irak, c'est pas l'Iran là. Va à Ninive. Jonas se trouve en Israël. Et il descend à Jaffa, au port, et prend la direction complètement opposée. Vers Tarsis, c'est-à-dire l'Espagne. L'ordre que reçoit Jonas est bref, il est précis, il est clair. Et il ne comporte aucune hésitation sur la nature et l'œuvre à accomplir. Aucun doute sur la volonté de Dieu. Mais Jonas descend à Jaffa. Et il va vers Tarsis, qui se trouve à plus de 3800 km de là. On voit bien par rapport aux flèches combien l'attitude est de tourner littéralement le dos. Je ne cherche pas à comprendre autre chose, on fuit. On prend ses jambes à son cou, c'est le cas de le dire. Là, il va prendre le bateau. Il s'enfuit loin de la face de l'Éternel. Ça, c'est capital. Comme si on pouvait s'enfuir, loin de la face de l'Éternel. Il ne s'enfuit pas de Ninive, parce qu'il ne veut pas s'éloigner de Ninive. Il veut s'éloigner de la présence de l'Éternel. Et il est vrai que pour un juif, la présence de Dieu se trouve autour du pays, dans le pays, le temple, n'est-ce pas ? Dieu est là, présent. Donc il pense que quitter le pays va pouvoir être pour lui une délivrance quant à la relation qu'il a avec son Dieu. Et il ne discute pas. Aucun motif de refus, dit le texte. Il prend la route opposée. Comme quoi, il y a parfois des expressions sans les mots qui veulent dire tout autant que les mots. Et nous connaissons ces attitudes parfois, qui font mal. Un geste, une mimique, une situation qui volontairement agit. Alors Jonas ne veut pas faire mal à Dieu, bien évidemment, mais sa situation montre ce qu'il a au fond de son cœur et cette intention, non, je ne suis pas d'accord, je n'obéirai pas à cet ordre. Et là, on pourrait dire, eh bien mon ami, licenciement aussi sec, t'es plus un prophète, n'est-ce pas ? Faute professionnelle, tu n'agis pas ainsi. Le refus catégorique d'obéir à une mission pour un prophète est extrêmement rare dans l'Ancienne Alliance. Certains hommes ont rechigné à suivre l'engagement ou l'appel du Seigneur. Je pense à Moïse, qui va s'interroger en disant « Mais qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Et il va tout faire pour avoir les arguments contre Dieu, enfin pas envers Dieu, pour montrer à Dieu qu'il se trompe, il n'est pas l'homme de la situation. Mais au final, Moïse va y aller. Il y a Gédéon, qui quand il reçoit son appel, dit « Mais moi, je suis le plus petit de ma famille, qu'est-ce que je vais pouvoir monter une armée comme tu me le demandes pour aller bouter hors de notre pays les envahisseurs ?» Donc, argument, et puis contre-argument de Dieu. Gédéon va quand même s'engager. Il ne va pas partir du pays, comme fait Jonas. Et puis Jérémie, pareil. « Ah, Seigneur, je ne sais pas parler, je suis un enfant, et tu me demandes d'être un prophète. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Est-ce que tu as bien réfléchi à la situation ? Je ne suis peut-être pas le meilleur. » Non, 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 c'est toi que je veux. Mais Jérémie va s'engager. Pour Jonas, une telle raison ou telle décision de la part de Dieu est complètement folle. On va le voir tout au long de l'étude. La cruauté des Assyriens était bien connue et a sévi pendant plusieurs siècles déjà. Le roi Assurbanipal avait l'habitude de brûler une ville hostile après sa capture, puis de mutiler tous les prisonniers, hommes adultes, en leur coupant les mains et les oreilles et en leur crevant les yeux. Rien que ça. Et Seigneur, tu veux que j'aille là-bas ? Moi, le juif ? La crainte de ce peuple semble parfaitement expliquer le refus de Jonas, qui ne peut pas ignorer ses faits, bien sûr, et que ce peuple assyrien soit aussi violent. D'autant que la Samarie a été envahie par la Syrie. A priori, au moment où Jonas devait être encore un enfant, autour de l'an 805 avant Jésus-Christ. On posera demain après-midi quelques dates pour repérer tout ça. Donc il sait, il connaît la violence de ce peuple. Mais Jonas s'imagine naïvement qu'en voguant dans la direction de Tarsis, il s'éloigne de la face, c'est-à-dire de la présence de Dieu. Alors oui, physiquement, bien, il n'y a pas de souci, mais quelle utopie. Je pense à ce psaume de David qui nous dit « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, c'est bien ce que fait Jonas, là aussi ta main me conduira, ta droite me saisira. Si je dis « Au moins les ténèbres me couvriront, eh bien la nuit devient lumière autour de moi. » On ne peut pas échapper à Dieu. Dieu est toujours là, tout près, veillant sur le rebelle et lui préparant des expériences assez douloureuses et particulières qui vont le faire réfléchir. Nous verrons ça demain en particulier, mais déjà la première va venir ce soir. Ainsi, nous aussi, nous nous écartons de Dieu en suivant avec ou sans parole notre propre chemin, mais il ne nous abandonne pas et nous ramène sur ce chemin si nous sommes attentifs. Sa providence veille sur nous et combine la trame des circonstances qui nous feront rentrer en nous-mêmes et nous ramèneront à ses pieds, peut-être brisés, avec des regrets et du temps perdu. Et Dieu a d'innombrables manières et moyens de nous faire réfléchir, quand on y pense. Quand Jonas quitte le port de Jaffa, tout est calme. Peut-être une toute petite brise qui est là, mais pas de problème. La météo sur France 2 n'a pas annoncé de tempête à venir. On peut y aller. Et les marins, les professionnels, sont aussi conscients que le trajet va s'opérer facilement. Ils ont l'habitude. Nous n'avons pas de soucis à avoir. Et nous l'avons lu à peine monté à bord, alors qu'il n'était pas tout seul, bien évidemment. Beaucoup de gens montaient dans ces bateaux pour aller à tel endroit. Il va s'isoler et il descend à fond de cale rechercher la tranquillité d'esprit et peut-être le repos de sa conscience. La traduction de la Septante, c'est-à-dire de l'hébreu au grec, dit que Jonas s'endort et ronfle dans l'idée du texte et du mot hébreu et la traduction grecque. Donc il dort. Une passivité totale. Comment peut-on expliquer ce comportement? Alors qu'il est convaincu et il sait qu'il s'enfuit loin de la face de l'Éternel, n'a-t-il pas un peu de regret? Dormir n'aurait peut-être pas été la première chose qui nous serait venue à l'esprit, peut-être. Moi, je sais que j'aurais peut-être combiné et réfléchi, mais bon, je vais à Tarsis ou je prends le bateau, qu'est-ce qui va se passer après? Il va falloir un petit peu, hein, n'est-ce pas? On échafaude un peu des plans sur la comète. Non, lui, il dort. Convaincu que ce qu'il fait est logique et normal et que, quelque part, et c'est dans le sens général du livre, Dieu va finir par entrer dans une raison, la sienne. Et va finir par comprendre en disant « Oui, finalement, Jonas, tu avais raison. Ouais, je me suis trompé, j'ai bien réfléchi. Tu as bien fait de partir. Voilà, on ne va pas le faire. Tu peux revenir si tu veux. » Mais le texte montre que tout à coup, la brise va se transformer en vent et le vent en bourrasque. Le texte nous dit qu'une grande tempête se lève sur la mer. Le navire est violemment ballotté par les fortes vagues. Et la rapidité, la soudaineté de cette tempête alerte les professionnels à bord, les marins. C'est pas normal. Il y a un problème. On n'a jamais vu ça. On ne serait jamais parti si on avait su que la tempête serait venue. Il n'y avait rien qui l'annonçait. Mais comment peut-elle venir aussi vite? Il part donc au plus pressé. Allège le navire, bien évidemment, parce que s'ils le font, c'est parce qu'il y avait danger bien de sombrer. C'est l'affolement. Et on imagine qu'à la fois les marins mais aussi ceux qui étaient venus, qui avaient payé leur transport, comme Jonas. Ben, c'est affaire. Travail. Jonas, lui, il est dans son petit monde. Il dort du sommeil du juste. Et nous voilà confrontés à la même question du capitaine à Jonas, qui a peut-être entendu, j'allais dire, des ronflements, j'en sais rien, ou peut-être qu'on lui a dit, il y a un gars là-bas, il dort, il ne nous aide pas, il faudrait peut-être un peu le secouer, et peut-être c'est pour ça que le capitaine est descendu, ou bien il est descendu pour chercher quelque chose ou faire quelque chose, et il a croisé, ou vu Jonas. En tout cas, il lui pose cette question, « Dis donc, tu dors ?» Littéralement, c'est ainsi que c'est donné dans le texte. D'autres traductions traduisent « Que fais-tu, dormeur ?» Et là, nous assistons à déjà un bras de fer, on peut le dire, un bras de fer, entre Dieu et son prophète. Jonas ne cède rien devant la menace de la tempête, parce qu'il l'avouera un peu plus tard, on va le voir. « Je sais que c'est moi qui attire cette tempête. » Cette tempête, j'en ai rien à cirer. Débrouillez-vous. Dans un premier temps, il tourne le dos à Dieu. Et dans un deuxième temps, il fait la sourde oreille à la situation qu'il y a sous ses pieds et autour de lui. Dieu littéralement le secoue. Seulement, il n'est pas tout seul à être secoué. Il y a tous les autres autour de lui qui sont secoués. Et malgré cela, il ferme les yeux et il refuse de voir la tempête, alors qu'il sait très bien ce à quoi elle correspond. Pense-t-il encore une fois au fond de lui que Dieu va comprendre? Il faut qu'il s'obstine pour réveiller la conscience de Dieu. Et là, nous entrons dans quelques réflexions. Je crois que Jonas dort et il réussit à dormir. C'est surprenant, mais il le fait pour ne pas entendre. On peut d'ailleurs se demander combien de temps Jonas serait-il resté à fond de cale si le capitaine n'était pas venu le réveiller. Espérait-il, attendait-il que le bateau coule? Ou bien que Dieu stoppe la tempête dans ce bras de fer en lui disant « Tu as gagné, Jonas, j'arrête. Tu es têtu, je n'arrive pas à te convaincre. J'ai tout essayé, stop. » Oh, Dieu n'a pas tout essayé. Demain matin, nous allons le voir. Qui va lâcher le premier? C'est la question aussi qu'on peut se poser, Jonas ou Dieu? L'isolement dans le sens spirituel, et là, je pense que nous pouvons réfléchir à cela. C'est une leçon qui vient, me semble-t-il, dans cette situation de Jonas. Je sais que dormir dans des situations particulières de la vie, pour certains, cela se fait et ils y arrivent, mais ça peut être aussi une fuite. Et ils arrivent à dormir, malgré les soucis, malgré les difficultés. Je pense particulièrement à ces personnes qui sont à tête de dépression nerveuse et qui ont ce réflexe de dormir, de s'isoler. J'ai vécu cela pendant des années avec ma première épouse, qui était dépressive. Et c'était son réflexe. Je vais dormir. Parce que, espérant qu'au réveil, les choses allaient changer. Par un miracle, j'ouvre les yeux et ma vie est différente. Mais c'est pire encore quand on se rend compte que la vie n'est pas différente. Et c'est un cercle vicieux dans lequel on peut tomber. Jonas dort. Et cela me fait penser à notre conscience. Je suis interpellé, moi, par ce livre de Jonas, et je l'ai été particulièrement par ce que j'ai pu vivre aussi dans ma propre expérience spirituelle et familiale. La conscience est ce témoin intérieur que nous avons tous en commun, nous, les êtres humains, qui que nous soyons. Et l'apôtre Paul le rappelle aux Romains lorsqu'il dit « Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. » Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. Donc notre conscience est alertée, et sera d'autant plus alerté ou proportionnellement alerté en fonction de l'éducation qu'on aura reçue. Et si l'on rajoute à cette éducation, eh bien, ce dont nous avons parlé avec le groupe de jeunes tout à l'heure, la transformation spirituelle, la nouvelle naissance, alors notre conscience est d'autant plus affinée et interpellée par Dieu lui-même. Le rôle de la conscience est donc de rappeler aux hommes leurs responsabilités qu'ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes en témoignant en faveur d'une vérité ou d'une justice. La conscience est donc une faculté qui est donnée à l'homme pour qu'il distingue entre le bien et le mal et qu'il réagisse en fonction du bien et du mal et de ce qu'il a comme donné. Quelqu'un a dit que la conscience, c'est ce qui gratte à l'intérieur quand tout va bien à l'extérieur. Je trouve pertinent cela. C'est donc une sorte d'instrument de contrôle que nous avons et dont l'Esprit de Dieu se sert, bien sûr, pour nous parler. Et vous savez à qui je pense lorsque je pense à la conscience ? À Pinocchio. Cette histoire est extraordinaire à ce niveau-là, où Jiminy Cricket représente la conscience de Pinocchio. Et il essaie, il y a un combat, il y a des dualités dans la vie de ce personnage de Walt Disney qui montre comment on peut écouter, comment on ne peut pas écouter et quelles sont les conséquences quand on écoute ou qu'on n'écoute pas. Mais chaque fois que nous oublions que nous profanons nos valeurs ou notre foi, nous souffrons d'une tension intérieure et de sentiments de culpabilité qui poussent à une réaction. Il ne faut pas être culpabilisé à outrance, mais il y a une bonne culpabilité et on ne peut pas aller dans le pardon sans la culpabilité. Cette réaction sera dictée sur les dites valeurs ou les dites foi que j'ai en moi. Il y a deux exemples dans le Nouveau Testament qui s'opposent et qui sont assez intéressants et percutants à ce sujet. Ce sont Judas et Pierre. Chacun, à un moment donné de sa vie, est repris dans sa conscience. Pour Judas, les remords sont apparus lorsque Jésus est condamné. Et là, on se rend compte que cet homme, tout d'un coup, se réveille, se mord les doigts d'avoir trahi Jésus. Mais c'est trop tard, il ne peut plus rien faire. Et il dira, j'ai péché en livrant le sang innocent. Donc on ne dit pas ça comme ça. Il y a bien quelque chose qui s'est passé dans son cœur et dans sa conscience. Il est repris. Pierre, lui, c'est après son reniement. Quand il avait dit à Jésus, moi jamais je te renierai, par orgueil, eh bien il a tombé, bien sûr, dans ce reniement. Et quand il croise Jésus qui est arrêté, qui part, qui passe devant lui, Pierre étant autour d'un feu, etc. Et après avoir renié deux fois, trois fois, Jésus traverse la cour du souverain sacrificateur, leurs regards se croisent et Pierre, il nous a dit, pleura amèrement. Donc les pleurs de Pierre sont une manifestation d'une réaction de sa conscience. Elle les réalise. Mais ces deux exemples montrent bien que le réveil de la conscience ne suffit pas pour trouver la paix. Celle-ci va venir de la manière dont ils vont répondre à l'appel de leur conscience et sur la crainte qu'ils vont avoir à ce moment-là de Dieu, qu'ils ont pour l'un et pour l'autre offensé, disons Jésus. Judas, lui, après avoir dit « j'ai péché en livrant les sangs innocents », n'a pas pris le pas de la culpabilité qui va vers la repentance. Il a trouvé pour seul moyen de libérer la pression de sa conscience par le suicide. La mort, finalement, est plus intéressante. Au moins avec ça, je ne souffrirai plus. Oui, c'est vrai, humainement parlant. Pour la suite, ça appartient à Dieu. Alors qu'il aurait très bien pu, j'en suis convaincu, tout en ayant fait ce qu'il avait à faire selon les prophéties qui le concernaient, venir auprès de Jésus et se repentir. Mais Dieu savait qu'il ne le ferait pas. On ne va pas s'arrêter sur ces expressions sur Judas, ce n'est pas le but ce soir. Quant à Pierre, ses pleurs révèlent l'intention profonde de son cœur et une fois que Jésus a passé devant lui, qu'il va être crucifié, Pierre va tout faire pour essayer de se réconcilier avec Jésus. Et on le voit particulièrement au dernier chapitre de l'évangile de Jean, lorsqu'ils sont retournés à la pêche, par dépit, par déception. Jésus est mort, ouais, il est ressuscité, mais ils l'ont vu une fois, deux fois, très bien. Mais Pierre, lui, il n'a pas eu l'occasion de régler ce problème. Eh bien, quand Jean du bateau voit Jésus, et quand Jésus dit « Jetez votre filet de l'autre côté », et comme pour la première pêche miraculeuse, au début de l'appel, il y a un miracle qui se fait, Jean dit « C'est le Seigneur !» Ça peut être que lui. Et quand Pierre entend Jean dire ça, il plonge dans l'eau, tout nu d'ailleurs, hein, il s'habille même pas, dit le texte, ça montre bien la rapidité, et il précède les autres. C'est pas pour rien qu'il le fait. Il veut un entretien avec Jésus. Il fait tout pour que ses pleurs, sa conscience, soient apaisés par le regard de Jésus qu'il a croisé il y a quelques temps avant et avec qui il n'a pas pu discuter. Mais bon, c'est sans compter sur l'humour du Seigneur qui va attendre que tout le monde soit autour du feu, comme le feu du reniement, et qu'il soit publiquement, comme le jour du reniement, mis à mal, lorsque Jésus lui dira devant les autres, « Est-ce que tu m'aimes, Pierre ?» par trois fois. Pour, quelque part, pardonner à chaque fois les trois reniements. « Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, tu sais toute chose. » Dans la troisième réponse, il précisera. Ce « toute chose », c'est « tu sais ce que j'ai fait. » Mais tu sais que je t'aime. Et c'est là qu'il va être remis dans son ministère et devenir le Pierre que nous connaissons après. La paix était là. Mais il a rencontré le Christ. Oui, Dieu travaille les cœurs de ses enfants par le Saint-Esprit. Je ne mens pas, dira Paul, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous sommes amenés à vivre. Alors, je me suis posé la question pour aller un petit peu plus loin dans notre réflexion. Quelles sont les amorces ou les tentations dont le diable se sert pour amener le croyant, en parallèle avec Jonas le prophète, qui est aussi un engagé pour Dieu, pour faire taire ou essayer de faire taire la conscience et l'empêcher de parvenir à cette repentance qui est seule source de paix et de salut. Eh bien, je crois qu'on peut relever trois amorces de Satan. La première amorce, c'est en essayant d'oublier, sachant pertinemment que l'acte commis est un péché, c'est une désobéissance à Dieu. C'est ce que Jonas va essayer de faire en dormant. On veut mettre ça de côté, dans un autre tiroir. La phrase un peu vite lâchée, il faut laisser du temps au temps, ne fera rien à ce niveau-là. Mais cela ne fera qu'aggraver la situation. Vous savez, quand vous vous promenez un peu dans les bois et que vous tombez sur une mare d'eau, limpide, jolie, on y voit des têtards, on y voit des insectes et des plantes au fond, eh bien, vous avez déjà fait ça. Vous avez planté un bâton au fond de la mare et vous avez remué, vous voir un petit peu ce que ça a donné. L'eau est trouble, automatiquement. Eh bien, le fait d'entrer dans le « oh, on verra bien, laissons le temps au temps », c'est accumuler quelque part des choses qui, à une occasion précise, vont ressortir avec beaucoup plus de force et beaucoup plus de dégâts. C'est pourquoi nous devons et nous sommes appelés à régler vite les problèmes. C'est exactement ce que David a essayé de faire. Et pourtant, David, qui était un roi ou un berger au départ, selon quand il a été appelé par Dieu, au cœur de Dieu, il avait le cœur de Dieu dans son cœur, c'est le cas de dire, il va tomber dans trois, quatre pièges grossiers, on pourrait dire. La convoitise, l'adultère, le meurtre et le mensonge. Regardez, il a cumulé. Hein. On peut dire s'il n'avait pas fait beaucoup de choses avant, même s'il n'était pas parfait, là, il a cumulé. Et David essaie d'endormir sa conscience en laissant peut-être passer le temps. Parce qu'il était justement dans ce combat contre le temps. Quand il fait revenir Uri, le mari de la femme trompée, adultère, eh bien c'est vite pour que cet homme aille vers sa femme devant tout le monde. puisqu'elle avait annoncé qu'elle était enceinte de lui. Vite, vite, faisons-le venir, l'enfant sera de lui. C'était mal compté sur cet homme qui n'a pas voulu aller auprès de sa femme à cause de ses compagnons qui étaient là-bas en rase campagne en train de se battre et se faire tuer. Ça, David n'y pensait pas. Donc, à un moment donné, vite, vite, le temps court, parce que ben, le bébé, il est là, quoi. Il ne peut pas attendre des mois. Hein. Alors, il le tue. Et en le faisant tuer par un stratagème terrible et pernicieux, vous imaginez quand même que cet homme prend dans sa propre main la lettre de David qu'il doit porter à son général en chef, en lui disant dans cette lettre, « Mets Uri au plus fort du combat et fais le tuer. » Il a ça dans sa poche, Uri. Oh, il ne l'a pas ouvert, sa lettre. Parce qu'ils ne seraient pas allés vers Joab. Et une fois qu'il est mort, eh bien David fait vite revenir Bathsheba dans le palais, et puis devant tous, la prend pour femme, et ainsi, 9 mois plus tard, allez, à quelques semaines près, il n'y a pas de souci, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et dans une situation comme ça, comment David peut-il essayer d'oublier, parce que c'est exactement ce qu'il fait, parce qu'au psaume 32, il dit, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Le psaume 32 est écrit dans cette circonstance-là, comme le psaume 51 d'ailleurs, où il dira « Rends-moi la joie de ton salut, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Il avait peur que Dieu se retire de lui. « Tant que je me suis tué. » Donc il a essayé de se taire. Et il a fallu le stratagème de Nathan le prophète qui vienne lui raconter une histoire pour l'endormir et en même temps pour le réveiller lorsque David va prendre position dans cette histoire de cette brebis qui a été piquée par quelqu'un. Et David lui-même reconnaît son état. Mais il s'est tu. Mais vous remarquez que quand il s'est tu, il exprime, il témoigne de la puissance, quelque part, de la conscience. Je gémissais, mes os se consumaient. C'est ça la conscience, en fait. Elle ne me laisse pas tranquille. Et merci Seigneur de ce que la conscience ne nous laisse pas tranquille. Surtout quand on est enfant de Dieu. Notre conscience pourra cesser de nous tourmenter, cela peut arriver, si nous transgressons volontairement et de façon répétée les mêmes valeurs. On finira par s'habituer. Et merci Seigneur d'avoir montré et d'avoir, pour le cas de David en tout cas, envoyé Nathan le prophète. Parce que peut-être que David serait mort intérieurement. Ou je ne sais pas comment il aurait fini. Nous perdons graduellement l'intensité du sentiment de culpabilité si nous nous habituons à la douleur de la conscience. Parce qu'on peut peut-être s'y habituer. Non pas parce que cette conscience aura été estropiée, mais parce que nos règles auront petit à petit été modifiées quand on s'habitue à transgresser les choses. La règle se déplace, le curseur se déplace, et on finit par s'y habituer. Paul y fait certainement allusion lorsqu'il dit à Timothée, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Et il précise, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Donc à un moment donné, Dieu lâche les choses aussi. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc vous voyez la paire des mots qui est donnée, garde la foi avec la conscience. Certains ont perdu leur conscience, c'est-à-dire qu'on finit par ne plus écouter leur conscience, et le résultat a été que la foi a été atteinte. De ce nombre, il les précise, sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Ils ont fini par tomber gravement dans le blasphème. C'est comme cela que, petit à petit, comme le prophète Ésaïe l'avait prophétisé en son temps pour Israël, le bien est changé en mal et le mal est changé en bien. Et dans une société telle que nous la voyons aujourd'hui, nous n'avons pas de peine à comprendre la situation et de voir comment les choses hier appelées mal sont aujourd'hui appelées bien et vice-versa. Parce que la conscience, petit à petit, s'est perdue. Une seconde amorce, c'est de se donner bonne conscience. Et là, nous sommes les champions pour cela. C'est se trouver de bonnes excuses ou des concours de circonstances qui font dire après tout, et tout bien pensé, ben, c'est pas ma faute. Oh, il a bien cherché, hein, ce qui lui arrive, tant pis pour lui, zut. Ou bien, Dieu sait que je suis faible à ce sujet, donc quelque part, c'est mon petit péché mignon, ma foi. Je suis assez clean ailleurs, là je peux prendre des libertés. On se donne bonne conscience. Ou bien encore cette expression, Dieu sait que je ne peux pas m'en passer. Donc quelque part, il va me lâcher un petit peu la grappe avec ça. Il va me laisser tranquille. Et non. Et merci Seigneur de ce qui ne laisse pas tranquille. L'Épître aux Hébreux nous dit « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse dans la séduction du péché. » Se donner bonne conscience, c'est s'endurcir dans la séduction du péché. On peut aussi se donner bonne conscience, et là je pense en particulier à nos jeunes, en se disant que puisque tout le monde le fait, c'est que c'est pas si mal que ça. Alors pourquoi pas moi ? On se donne bonne conscience. On rejette la responsabilité finalement à la majorité. S'ils se trompent, ben voilà, c'est leur problème. Moi je fais comme eux finalement, je suis comme eux. L'infidélité par exemple, pour ne citer qu'elle, voilà un mot qui ne veut plus rien dire aujourd'hui dans le domaine de la sexualité. On fait des téléfilms depuis des décennies où l'adultère est mis au pinacle. Et à force de banaliser tout cela, tout le monde le sait. Enfin, tout le monde. J'espère que nous ne le faisons pas. Mais quand je dis tout le monde, vous comprenez ce que je veux dire. Le monde affirme que la majorité a raison. Non. Dans la parole de Dieu, finalement, c'est tout le contraire. C'est la minorité qui a raison, quelque part. Parce que nous sommes une minorité. Et par la vérité de l'évangile que nous avons au fond de nous, nous pouvons dire que nous sommes dans le vrai, parce que nous le vivons dans notre cœur, parce que nous sommes dans une certaine paix et tranquillité. On ne peut pas prouver l'existence de Dieu, on peut simplement le manifester et le montrer par notre propre vie qui a été changée. Oui, c'est dans la minorité que va s'affirmer notre foi. C'est à contre-courant que l'enfant de Dieu doit apprendre à vivre dans un monde de plus en plus hostile à l'Évangile. Et puis une troisième amorce que je peux mettre en avant, c'est, elle nous intéresse peut-être plus particulièrement, c'est interpréter les Écritures. Mais les interpréter, j'allais dire à notre sauce, comme ça nous arrange. Pour ne pas justement tomber dans la culpabilité à outrance ou la repentance. Et en fait, c'est quelque chose de grave parce qu'on cherche à faire passer Dieu pour ce qu'il n'est pas, en faisant dire à sa parole ce qu'elle ne dit pas. Et il y a des choses qui sont très clairement attestées. Je dis, et je pense, quand nous sommes dans une situation peut-être conflictuelle de conscience, et que nous lisons l'Écriture, et que l'Écriture, dans notre lecture journalière, nous frappe, et que nous sommes repris, et que quelque chose revient à notre esprit, « Ah oui, tiens, c'est vrai, je me souviens que... » C'est que l'Esprit nous demande de le régler. Et là, nous pouvons avoir des excuses, en disant, « Ouais, finalement, c'est pas forcément pour moi que ce texte a été donné. » Et quand on commence à réfléchir, quand on commence à mettre en avant le Dieu a-t-il réellement dit de Satan dans le jardin d'Éden, et c'est comme ça qu'il a fait piéger Ève et Adam ensuite, qui, Ève, pour la première réponse, a été très juste en disant à Satan, Dieu nous a dit de ne pas prendre le fruit défendu. Ah ben c'est très bien Ève, tu as bien compris, tu as bien appris la leçon, intellectuellement il n'y a pas de souci. Sauf que quand Satan a rajouté, non, réfléchis Ève. Est-ce que Dieu a réellement voulu dire ça en vous disant que vous ne mourrez pas? Mais au contraire, vous serez comme des dieux, vous serez comme le Créateur. C'est toujours d'ailleurs le même problématique aujourd'hui. Hein. Et quand on entre dans ce réellement en se disant non, c'est pas pour moi, non, c'était un texte pour les Corinthiens, donc finalement dans un contexte culturel de l'époque, c'est pas forcément bon pour moi aujourd'hui, etc., etc. Et puis on finit par oublier comment la conscience nous a alertés et on la remet encore quelque part dans notre tiroir. Et on poursuit gentiment sa vie comme si de rien n'était. Dieu a-t-il réellement dit ? C'est le principe même de ce que l'on appelle aujourd'hui le libéralisme, qui utilise ça pour justifier toute chose et surtout pour annihiler la puissance de l'Écriture. Et ça, c'est pas bon du tout. Nous souhaitons, dans cet esprit un peu libéral, que Dieu ne soit qu'amour, tolérant, patient, en oubliant un peu vite sa justice qui seule nous libère. N'oublions pas cela. Oh, je ne suis pas en train de dire que Dieu n'est pas amour, hein. Bien sûr qu'il est amour, Dieu, avec un amour incroyable. Mais il est aussi justice. Et il a donné des normes, il a donné des lignes qu'il ne faut pas franchir. Il a dit des choses qui vont se passer. Ce n'est pas à nous à les changer, mais à les accepter et à faire en fonction d'eux. Alors, revenons à notre prophète avant de terminer. C'est donc Dieu lui-même qui va intervenir en utilisant le capitaine du navire en perdition. Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et là, je le dis avant de partager ces trois points sur la conscience, je l'ai dit que Dieu a d'innombrables moyens pour réveiller notre conscience. Et le capitaine fait partie de ces moyens-là pour Jonas, réveiller en tout cas de sa torpeur physiquement parlant. Mais quand il lui dit « invoque ton Dieu », là on a affaire à un combat spirituel pour Jonas. C'est ce qu'il est en train de fuir. Il s'enfuit loin de l'Éternel. Et lui, on lui dit « invoque-le ». Non, non, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, là. Au contraire, je veux l'oublier. Oui, mais lui, il ne me lâche pas. C'est lorsqu'il est donc apostrophé par le capitaine que Jonas revient à la réalité et s'aperçoit qu'il fait partie intégrante du navire. Il l'avait un peu occulté. Son isolement n'a pas produit le miracle d'un changement de situation sûrement espéré par Jonas, ce bras de fer dont on a parlé tout à l'heure, parce que ses soucis sont toujours là. Et maintenant, voilà que le sort l'a mis en avant. Quand ces marins tirent au sort, alors ça a dû passer un moment, hein, parce qu'il a fallu que, je ne sais pas comment ils ont fait, hein, mais il n'était pas tout seul, Jonas, il y avait du monde autour de lui. Donc il a fallu prendre, je ne sais pas moi, les noms des gens, les mettre dans une boîte ou dans un chapeau, et puis voilà, la tempête était là, il fallait se tenir sur le pont, ouais, c'était pas tout, ça n'a pas été vite tout ça. Enfin, lui, il était en bas, hein, il dormait de toute façon. Hein. Voilà. Sauf que son nom a été sorti, puisque on a tiré son nom. Donc quelqu'un a dû se dire, oui, il y a un mec en bas qui dort là. Bon, on va marquer le dormeur. Peut-être on ne sait pas qui c'est ce gars-là. En tout cas, c'est le dormeur qui est sorti du chapeau. Comme par hasard. Mais il n'y a pas de hasard si ce n'est qu'avec un grand D, n'est-ce pas ? Et Jonas va dire au capitaine, je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ah oh, mais vous m'apprenez rien là. Oh là là. Vous pouvez me réveiller, je sais où j'en suis, hein. Je sais ce que je fais, je sais où je vais. Enfin, je sais surtout où je ne veux pas aller. Après, le reste, on verra bien. Non, non, je sais. Et il ajoute cette parole. Écoutez, jetez-moi à la mer. Et la mer se calmera envers vous. Alors, on peut se dire, ou bien il n'est pas bien réveillé, n'est-ce pas ? Ou alors il est inconscient. Ou alors, il veut mourir. Eh bien, je penche sur la troisième hypothèse. Parce que nous allons le voir demain après-midi, c'est exactement ce qu'il va faire. Enfin, pas faire, va demander à voir. Parce que quand il dit ça, la mer est toujours démontée. Jonas ne voit donc pas d'autre solution pour réparer, entre guillemets, le mal qu'il a causé à cause de sa désobéissance. C'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Eh bien que, finalement, de quitter le bateau. Et il faut faire vite, le temps presse. Il sait pertinemment que la tempête est provoquée par Dieu, qui veut l'amener à Ninive. Il sait donc que Dieu la stoppera de la même manière. Quel homme, pourrait-on dire ? Waouh ! Se faire jeter à l'eau comme ça. Il est fort, Jonas. Courageux, Jonas. Non, il veut mourir. Et peut-être qu'il se dit, entre ce bras de fer entre lui et Dieu, si je ne meurs pas, je ne vais pas gagner, quoi. Il ne va pas me lâcher. Fuite dans la mort. Et vous verrez demain après-midi que ce sera une idée fixe chez lui. Mais lorsqu'il est proposé donc de se jeter à la mer, il veut certainement aussi en finir avec ces luttes intérieures dont on a parlé, cette fameuse conscience, forcément. Il préfère en fait mourir noyé que d'aller proclamer à Ninive un message que Dieu lui demande de faire. Il ne peut donc pas ignorer Jonas à ce moment-là que s'il le jette par-dessus bord, la noyade est imminente. Mais alors, aussi paradoxal que cela puisse être, la proposition de Jonas va nous amener à penser à ce que j'appellerais une première préfiguration de Christ dans ce livre de Jonas. Et il va y en avoir trois en tout. On les verra de chaque fois. Nous découvrons la pensée même de ce qu'on pourrait appeler le substitut ou le bouc émissaire. Si vous me jetez à l'eau, c'est-à-dire si je quitte le bateau, vous vivrez. Mais si je reste avec vous, je ne sais pas ce qui va se passer, mais la tempête ne s'apaisera pas. Même si, dans l'idée, pour Jonas, c'est surtout de ne pas aller à Ninive, il y a dans ce, et vous allez voir dans l'ensemble du livre, quand nous lirons un petit peu la gerbe en conclusion demain après-midi, qu'il y a une suite vraiment logique dans la pensée même de Christ qui se révèle dans ce livre. Pourquoi ? Il y a un homme qui a dit dans le Nouveau Testament, il s'appelait Caïphe, lorsqu'il dit « Vous n'y entendez rien aux apôtres », dit Caïphe au Sanhédrin, « vous ne considérez pas qu'il nous importe qu'un seul homme meure pour le peuple et que toute la nation ne périsse pas ». Et il ne dit pas cela de son propre mouvement, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Cette première préfiguration peut se voir ainsi. Jonas va offrir sa vie pour sauver celle des marins. Jésus va offrir sa vie pour sauver les hommes. Mais je m'empresse de dire, nous avons une préfiguration imparfaite. L'idée est intéressante, elle est là, du substitut pour sauver les autres. Mais cette imperfection n'enlève rien à la hauteur et à la valeur de ce que nous mettons en avant maintenant. Mais elle est imparfaite pourquoi ? Eh bien parce que le prophète est ici le coupable qui va se donner en sacrifice, coupable par sa désobéissance. Tandis que Jésus, lui, est le juste, qui par obéissance au Père, va se sacrifier pour les autres. Nous avons une opposition de fond, mais nous avons une identité de style, si on peut dire ainsi, qui me fait penser que nous pouvons y voir cette préfiguration. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons « La loi qui possède les ombres des choses à venir » ne saurait être une représentation, je continue le texte, il est parti, désolé. Par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection, autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens au Dieu pour faire ta volonté. » Voilà l'obéissance du juste qui se sacrifie pour que les hommes soient libérés. Ce qui est opposé à la situation de Jonas. Jésus est bel et bien le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, lorsque le calme revient, une fois le prophète à l'eau, mais il se moque de ce qui est arrivé à Jonas, hein. Il est à l'eau, parce qu'ils l'ont bien jeté. Et comme la tempête, vous imaginez quand même les choses, le bateau n'est pas statique, il bouge, la mer bouge, on jette Jonas, on a bougé, on n'est plus à ses pieds, il n'est plus au pied du bateau, où il est? Pour les marins, il est mort. C'est une évidence. Et c'est pour cela qu'ils vont prier en disant « Ne nous charge pas du sang innocent, parce que ce n'est pas notre faute, on n'y est pour rien, nous. C'est lui qui a dit que c'était son problème, c'est lui qui nous a demandé de le jeter à l'eau. Et on le fait parce qu'il n'y avait pour lui pas d'autre moyen. Alors c'est hop, on se lave les mains. » Et ils l'ont fait avant de le jeter d'ailleurs. Et lorsque le calme vient, ces hommes, dit le texte, furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent à l'Éternel des sacrifices et firent des vœux. Et voyez au début du texte, c'est pour ça qu'il y avait ce chiasme là aussi, ils implorent leur Dieu quand la tempête arrive, tout le monde est sommé dans le bateau d'implorer son Dieu, parce qu'on ne sait pas lequel a été offensé. Quand le sort est arrivé, on sait que c'est celui de Jonas, on ne sait jamais, il ne faut pas en louper un, hein. Voilà. Sauf que là, ils ont compris que ce Dieu-là était un grand Dieu. Donc Jonas a fait de l'évangélisation sans s'en rendre compte. Et sans le vouloir. N'est-ce pas ? Il a montré la puissance de Dieu par sa désobéissance et ses hommes offrent des sacrifices à l'Éternel qu'ils ne connaissent pas. C'est incroyable. L'homme qu'ils ont jeté à la mer, tout en offrant des sacrifices à Dieu, est mort. Et peut-être pensent-ils, de par leur croyance, que ce Dieu avait besoin de ce sacrifice pour apaiser sa colère. Parce qu'il y avait beaucoup de croyances dans cet esprit, où on faisait même des sacrifices humains pour que les dieux soient apaisés. C'est bien ce qui se passe lorsque Jésus expire sur la croix, où il nous est dit qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le calme de la mer, mes amis, c'est le calme que nous avons lorsque nous donnons notre vie à Christ. C'est le calme qui vient lorsque nous comprenons que Christ est mort pour nos péchés, que Christ est mort, qu'il est enseveli, qu'il est noyé. C'est bien ce que Paul dira d'ailleurs. Et qu'il a été pour nous. Mais Jonas n'est pas mort. Ah, il est bien seul. Oui, c'est vrai. Dieu n'a pas l'intention de laisser son prophète mourir en pleine mer et il doit se dire « Zut, le calme est arrivé trop tôt, j'ai pas pu me noyer, je suis encore en vie. » Mais ça ne va pas durer longtemps, hein. Ça ne va pas durer longtemps. Car il va subir une seconde confrontation avec Dieu, qui ne sera pas cette fois une tempête, mais qui va devenir une terrible épreuve pour lui et qui va l'amener à réfléchir encore plus profondément sur sa propre existence. Et il va effectivement se croire mort, mais nous verrons cela demain matin. Comme ça, j'espère que vous viendrez pour tenir le suspense et aller un peu plus loin dans notre histoire. Voilà, nous allons encore prier, si vous voulez bien, pour terminer. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce temps que nous pouvons passer autour de ta parole. Nous te prions pour qu'elle puisse pénétrer dans notre cœur et faire son œuvre en nous, en silence, mais faire son œuvre. Tu agis avec puissance, Seigneur, et tu veux nous transformer, tu veux nous renouveler. Peut-être ce soir, tu nous as parlé sur un domaine en particulier. Puissions-nous écouter l'Esprit de Dieu, puissions-nous écouter notre conscience comme nous en avons parlé. Oui, Seigneur, merci pour ce livre de Jonas et pour les leçons que nous pouvons en tirer. Raccompagne-nous, fortifie-nous, renouvelle-nous encore et prépare-nous pour la journée de demain, que nous puissions aussi être à l'écoute de ta parole. Que ton nom soit béni. En Jésus-Christ. Amen.